Alors, point GPS de l'arrêt 1, 25 nord, 25 degrés, 38 minutes, 6,2 secondes. Est, 55 degrés, 49 minutes, 54,1 secondes. Cet arrêt numéro 1, c'est un arrêt sur le principe de l'actualisme. Vous vous souvenez, on l'a vu en cours. Donc, étudier un phénomène actuel récent pour comprendre quels sont les marqueurs qui nous permettent de repérer le même phénomène, mais dans les temps géologiques. Ici, on a la chance d'avoir une coupe de dunes, parce qu'il y a eu des travaux il y a 4 ans, lors de la construction de l'autoroute et de l'embranchement. C'est peut-être la dernière année qu'on aura la chance de faire cette visite, puisque avec les pluies et le vent, petit à petit, cette coupe disparaît. C'est rare d'avoir des coupes à l'intérieur des dunes fraîches comme cela. Donc, on va repérer, grâce à cette coupe, comment on peut caractériser donc l'intérieur d'une dune. D'une éolienne, c'est faite de sable. Et dans les marqueurs du passé, ce sable ne sera plus du sable. Il sera cimenté sous forme d'une roche qui s'appelle du grès. Je vais repérer ici à l'intérieur de la dune toutes les caractéristiques d'une dune éolienne. Et si je retrouve la même chose dans un grès datant de plusieurs millions d'années, je pourrais affirmer que puisque je retrouve les mêmes caractères, eh bien, ce sable, à l'époque de son dépôt, était un sable éolien et j'étais dans une région de dunes et donc j'étais dans un climat semi-aride. Voyez le principe, comment fonctionne le principe de l'actualisme. On va donc repérer maintenant quelles sont les caractéristiques d'une coupe de dunes. Alors, première chose que je repère des lits. Ces lits ont une caractéristique, c'est qu'ils sont croisés. En effet, on repère ici une orientation d'un premier banc de lits. Vous voyez le banc gris qui part en direction donc du soleil, c'est-à-dire qui a un pendage qui monte vers l'est. Et en dessous, on a d'autres strates très fines qui, elles, pendent vers l'est, mais en descendant. Si je regarde au loin les dunes, vous avez une pente douce qui vient de la mer, hein, la mer est à votre droite. Face à nous, c'est une pente qui est relativement brutale. Cette pente brutale nous indique que le vent dominant actuel est un vent marin. Ce vent marin vient donc du Golfe. Il pousse donc les grains de sable un par un jusqu'au sommet. Et ensuite, les grains retombent par leur propre masse sur la pente qui est plus raide. En effet, pour faire monter, que le vent puisse faire monter les grains, il a des difficultés, le vent, donc ça crée une pente douce pour que les grains puissent arriver jusqu'au sommet. Par contre, la pente qui est en face de vous, c'est la pente naturelle du sable que je pourrais déposer pour faire un tas avec une pelle. C'est la pente naturelle en fonction de la taille des grains. Et ça, les ingénieurs qui construisent des ponts et chaussées connaissent bien cela. Comment un matériau, en fonction de sa taille, forme des tas avec une pente qui est définie. Donc là, c'est uniquement la pente qui est liée à la gravité. La pente qui est en face de vous. On peut mettre sur pause. Deuxième origine des lits croisés, c'est que dans un temps historique de plusieurs milliers d'années, les vents dominants ont pu changer de direction. Actuellement, ils viennent du Golfe. Il y a 2000 ans, les vents dominants étaient les vents qui venaient du grand désert d'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs ces vents qui ont duré facilement 1 million d'années, qui ont été à l'origine de l'apport de sable, de ce sable orangé qu'on commence à voir ici, et ce sable qui vient donc du grand désert d'Arabie Saoudite. Ces dunes ont avancé à cette époque-là jusqu'ici. Alors ici, sur cette coupe, la base est une base fossile qui justement date d'une orientation des vents dominants venant d'Arabie Saoudite. Au-dessus, c'est fossilisé, mais c'est beaucoup plus récent, c'est le vent actuel, c'est-à-dire le vent dominant venant du golfe Persique. Cette différence d'orientation du vent entraîne évidemment une inversion dans le sens des strates. C'est pour ça que vous avez une inversion de pendage des lits. Puisque là, vous avez un vent qui vient à peu près de l'est, alors que d'ici, vous aviez un vent qui vient du nord-ouest, celui d'Arabie Saoudite. Ce qui a créé une inversion de pendage des lits. Alors vous verrez, quand je dis qu'elle est fossilisée, la dune, c'est que en effet, quand vous allez toucher ces lits, vous verrez qu'ils sont légèrement cimentés déjà. Cette cimentation est bien visible puisque certains lits sont plus cimentés que d'autres, par des oxydes de fer en particulier, et sont en relief là avec l'érosion. Hein? L'érosion de ce pan de dune qui a été creusé par les machines, depuis 4 ans, il a été érodé par le vent et par la pluie. Et voyez que vous avez des bancs plus durs que d'autres qui sont donc maintenant en relief. Ce qui indique que le sable est déjà cimenté, faiblement cimenté. Alors, quand vous frottez avec les doigts, vous verrez que vous arrivez à séparer les grains, mais il l'est. Donc nous avons compris le marqueur qui est le marqueur des lits croisés. Deuxième marqueur qu'on va observer à la loupe, les grains de sable. On va observer que ces grains sont des grains tous de petite taille et avec un classement homogène. Vous comprenez pourquoi? Le vent a une faible force, donc il ne soulève que des grains de petite taille. Il permet donc de mieux trier. Deuxièmement, vous allez voir à la loupe que ces grains sont piquetés. Et au microscope ou à la bino au lycée, on verrait qu'ils brillent peu. Alors, pourquoi piquetés? Parce que les jours de grand vent, les grains s'entrechoquent. Or, vous savez tous que le sable, c'est du quartz, que le quartz est un minéral très dur, et donc, en s'entrechoquant, ils se font chacun des petits trous, que l'on ne voit qu'au microscope ou à la loupe à fort grossissement. Mais comme ça, ils brillent moins. Alors qu'un sable de rivière brille. Un sable marin brille. Mais un sable éolien brille moins. Et on voit ces fameux petits trous. Ça, c'est le marqueur numéro 2. Un sable parfaitement classé, avec des grains de petite taille piquetés, je suis sûr que c'est un transport par le vent. Donc avec ces deux marqueurs, si dans le passé je vois un grès présentant des lits croisés avec des grains de sable parfaitement classés, de petite taille et piquetée, je pourrais dire, là, il y a 200 millions d'années, une dune. Et si c'est un sable général, c'est pas une dune littorale, parce qu'en plus, si c'est une dune littorale, j'aurais des éléments un peu calcaires, j'aurais sûrement des petits bouts de coquilles, etc. Donc c'est pas une dune littorale, c'est donc un ensemble de dunes désertiques. J'étais donc dans une région désertique ou semi-aride. Et c'est comme ça, vous avez vu, pour les élèves de SPE, qu'on construit les cartes de climat des temps anciens. Le point GPS de l'arrêt 2 est 25 degrés nord, 31 minutes, 35,3 secondes. Est, 55 degrés, 57 minutes, 44,9 secondes. Alors, vous avez remarqué que nous avons en effet traversé plusieurs cordons de grandes dunes qui étaient orientés nord-sud, hein, puisqu'on est dans la partie nord des Émirats, et donc la côte à Ras El Khaimah est quasiment orientée nord-sud. Et ces cordons de dunes sont parallèles, à peu près parallèles à la côte à cet endroit-là. Elles vont rester d'ailleurs orientées nord-sud, ce qui fait que elles, quand on arrive sur Sharjah, Dubaï, comme la côte commence à s'incurver, eh bien, elles sont plus éloignées du bord de mer. C'est pour ça que ces grandes dunes, quand vous voulez aller les retrouver depuis Dubaï, vous avez plus de kilomètres à faire pour aller faire du sport dans les dunes. Entre deux cordons de dunes, et surtout au début, vous avez vu qu'il y avait deux axes d'oasis. Hein. La deuxième est d'ailleurs la plus importante. C'est là que se trouve la piste qui fait Oum El Quwain, Ras El Khaimah, avant qu'il y ait donc Emirates. Si on ne voulait pas passer par la route côtière qui était goudronnée, eh bien c'était le seul chemin pour passer à l'intérieur, il y a encore 5-6 ans. Elle a toujours été utilisée hein, par les paysans, par toutes les personnes qui vivent dans ces oasis et permettait donc de faire la jonction. Maintenant, donc, ces cordons de lune sont passés et vous êtes rentré depuis déjà quelques kilomètres dans une sorte de, entre guillemets, delta de gravier. Et si on s'arrête là, c'est pas très joli. Mais c'est parce que justement, on est dans une carrière de gravier qui a été récoltée. Et vous voyez que ça a quand même une épaisseur importante et encore plus importante que cela. Alors vous allez sûrement, en regardant sous vos pieds, reconnaître ces galets. Parce qu'il y a des graviers, mais il y a aussi de gros galets. On a pu reconnaître des harsburgites serpentinisées. Des chertes rouges caractéristiques des sédiments des grands fonds océaniques qui résultent du dépôt des enveloppes siliceuses des radiolaires. On a trouvé aussi de nombreux galets de calcaire, du calcaire gris, du calcaire beige. Alors nous sommes ici dans une sorte de, donc on a dit de delta. C'est-à-dire que nous sommes à l'ouverture d'une vallée qui est devant nous, vallée qui vient de deux wadis qui viennent de la montagne, et c'est, entre guillemets, l'embouchure de ces wadis qui sortent de la montagne pour se répandre dans la plaine. Comme nous sommes en pays semi-aride, les wadis sont des wadis temporaires. Ils apportent donc les matériaux avec grande force quand il y a des forts orages. Dans la plaine, ces wadis disparaissent. L'eau entre en profondeur et dépose donc tous les éléments absolument mal classés, puisque vous avez de la taille du grain de sable jusqu'à la taille de rochers arrondis qui peuvent avoir 50 cm à parfois presque un mètre de diamètre, disons autour de 50 cm maximum quand même de diamètre. Donc très mal classé, caractéristique des wadis à cours temporaire. Pourquoi donc sur ces deltas qui sortent ponctuellement de la montagne tout le long jusqu'à Alain, nous avons une rangée d'oasis? Alors en descendant, on aura Al-Daïd. On aura Manama, on terminera par Alain. Bah, tout simplement parce que toute l'eau des wadis venant de la montagne, dès qu'elle arrive dans la plaine, dépose les graviers et entre en profondeur dans une nappe phréatique souterraine. Donc nous avons là de l'eau en réserve à quelques kilomètres de la montagne. Et on a donc, si on regarde une carte des Émirats, une bande d'oasis parallèle à la montagne, distante de quelques kilomètres, à la limite entre la plaine de gravier et les dunes. Et ça, c'est du nord au sud des Émirats, ainsi. Alors, nous allons justement regarder cela sur les images satellites qui sont dans le fascicule. Donc, rappel de la chaîne d'obduction que vous avez déjà parcourue l'année dernière sur la carte rencontre de la plaque arabique et de la plaque eurasienne. Les Émirats et Oman représentent donc ce qu'on appelle une chaîne d'obduction, c'est-à-dire que la plaque océanique iranienne est passée par-dessus la plaque océanique arabique pour ensuite se retrouver sur la plaque continentale arabique et ainsi former les reliefs de la chaîne d'obduction d'Oman et des Émirats. Cette chaîne d'obduction comportera donc le fond océanique sédimentaire. Alors, on a vu justement les chertes rouges. Comportera la lithosphère océanique que vous avez étudiée l'année dernière avec au sommet les pylons lava, en dessous les basaltes du complexe filonien, en dessous les gabbros et enfin le manteau avec les harzburgites serpentinisées par l'hydratation. On y trouvera aussi des amas de la sédimentation de plateformes, puisque la plaque océanique venant donc de l'Iran a poussé devant elle les sédiments calcaires de la plateforme quand elle est arrivée au contact de cette plateforme. Nous avons donc là un bon exemple de ce qu'est une convergence. Et le but de notre sortie maintenant va être de montrer que des éléments qui étaient distants parfois de plusieurs centaines de kilomètres se retrouvent maintenant devant nos yeux à quelques centaines de mètres de distance ou à quelques kilomètres de distance. La convergence, c'est donc un rapprochement des éléments géologiques. Si on regarde la carte suivante, la carte donc géologique de Moussandam et de la zone de Diba, on s'aperçoit donc au sud, Massafi, nous sommes dans la lithosphère océanique, indiquée en petits traits, c'est-à-dire que nous avons là des harzburgites, des gabbros, et puis dans la moitié nord de cette carte, nous avons la zone de Diba, très complexe, qui est en blanc, encadrée par deux failles. Et au nord de cette zone, on a donc la péninsule de Moussandam, principalement constituée de dépôts de plateformes calcaires, qui forment des reliefs qui dépassent 2000 mètres d'altitude. On passe maintenant à l'image satellitale de la région que nous sommes en train d'étudier. On l'oriente de manière à avoir les zones montagneuses qui sur l'image en fausse couleur apparaissent en violet, vert, bleu. On l'oriente de manière à ce que ce soit dans la direction des montagnes. En jaune derrière vous, donc, vous trouverez donc les dunes. Vous voyez dans ces dunes d'ailleurs les rangées d'oasis dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez donc le panache, une sorte de panache oblique qui est, entre guillemets, ce delta de gravier, qui sort de l'embouchure de deux wadis. Et vous voyez que ça fait comme une chevelure, hein, tournant vers le nord, qui n'a pas de végétation. Et ensuite, vous avez tous les parcelles de l'oasis, avec ensuite les pistes de l'aéroport de Ras El Khaimah. Vous voyez parfaitement les parcelles des jardins de l'oasis, qui sont donc distants du panache. Hein. Le panache est un panache de cailloux, et ensuite, les oasis s'installent dans une zone plus confortable, où l'eau n'arrive pas, disons qu'il n'y a pas de crue à cet endroit-là. L'eau a eu le temps de s'infiltrer dans le dépôt de cailloux et de gravier de cette sorte de delta. Alors ce wadi ne va jamais jusqu'à la mer actuellement. Nous avons donc repéré dans le panorama, au niveau de la péninsule de Moussadam, des reliefs constitués de calcaire de plateforme qui forment les hauts sommets de Moussadam. En premier plan, là où se trouvent les carrières de la cimenterie, encore des calcaires de plateforme. En face de nous, à quelques kilomètres, un dôme constitué de calcaire, de dépôt, de flysch, c'est-à-dire de talus continental. À droite de l'embouchure du Wadi, des dépôts de grands fonds océaniques avec donc des chertes rouges et verts mélangées à des dépôts de talus. C'est là que nous allons aller pour l'arrêt numéro 3. Alors, arrêt numéro 3. Nord 25 degrés 30 minutes 0,1 seconde. Est 56 degrés 1 minute 25,7 secondes. Donc nous sommes dans une région de pied de talus continental avec une alternance de dépôts de grands fonds océaniques siliceux et de flysch calcaire. Les dépôts de flysch sont des dépôts de coulées provenant du sommet du talus continental qui dévale tout le talus et ensuite ces dépôts de mélange de galets, de boue peuvent parcourir jusqu'à probablement plus de 100 km pour certains à une vitesse relativement rapide. Ce qui caractérise cette alternance de sédimentation, c'est un phénomène extrêmement intéressant au niveau de la durée, ce qui correspond d'ailleurs à votre première séance de cours, la notion de durée, de chronologie en biologie et en géologie. En effet, si je considère le dépôt de chertes siliceux, il s'accumule par, on l'a vu, les enveloppes siliceuses de foraminifères qui vivent donc en surface des océans. Ce sont donc des êtres microscopiques et ce sont des dépôts très fins, mais qui se font lentement. On peut considérer que 1 mm peut se déposer en plus que 100 ans. Et ça peut être beaucoup plus lent que ça encore. Par contre, quand je vais parler d'un dépôt de flysch, c'est-à-dire cette coulée qui s'éboule du haut de la plateforme continentale jusqu'au pied du talus, c'est un courant qui va se produire en quelques heures et un dépôt, disons, de l'ordre de un jour, deux jours peut-être, guère plus. Et ce dépôt ne sera pas millimétrique, il sera souvent même décimétrique. C'est-à-dire qu'il aura une épaisseur importante qui se sera faite en quelques heures ou bien un ou deux jours, contrairement aux dépôts siliceux. Donc vous voyez que la vitesse de sédimentation peut être extrêmement différente suivant le type de sédimentation. Au niveau tectonique, depuis cet arrêt, et vous pourrez prendre des photos pour les légender, du panorama qui est au nord, vous avez donc ici toujours donc des éléments qui alternent avec des chertes et des dépôts de fliches devant vous, avec des couleurs donc qui vont du marron lit de vin au gris très clair, en passant par du beige, n'est-ce pas? Ce sont donc des dépôts de fliches, et en rouge lit de vin, ce sont les dépôts de chertes. Vous remarquez ici à distance la tectonique de convergence avec des strates fortement inclinées, souvent 45 degrés. On verra d'ailleurs dans le dernier arrêt qui se trouve sur votre gauche, tout au bout là-bas, on verra qu'il y a même des strates quasiment verticales quand on arrive au niveau du Wadi Bahani. Vous le repérez bien, le Wadi Bahani, c'est la carrière blanche qui est dans le flanc de la montagne grise là-bas. Hein? Wadi Bahani, B-A-H-A-N-I. C'est l'autre Wadi. Là-bas, on verra que ça bute et que donc les couches se mettent quasiment verticales. Vous repérez des plis. Regardez, vous avez un pli beige, un anticlinal. Vous repérez une faille avec des strates verticales blanchâtres et un bloc, le bloc le plus élevé qui est à droite, qui le chevauche. Alors, arrêt 4. Les coordonnées de l'arrêt 4, nord 25, 29, 19,1, est 56 degrés, 2 minutes et 47 secondes. Donc la carte nous indique trois formations. Entre deux des formations, elle nous indique la présence d'une faille inverse, donc probablement d'un charriage. Nous allons donc rechercher sur ce paysage les trois formations et l'emplacement de la faille inverse. Sur ce paysage, nous repérons trois affleurements. Un affleurement au nord, qui est l'affleurement de Chamal, qui est l'affleurement de Cherte Rouge. Puis en allant vers le sud, un affleurement constitué de coulées volcaniques, du Cénomanien. Et enfin, toujours vers le sud, au sommet, avec une discordance, puisque les strates ne sont pas inclinées de la même manière, nous avons la formation de Dera. On repère donc au niveau de la discordance entre la coulée volcanique et la formation de Dera un charriage caractérisé par le fait que le sommet de la colline est plus ancienne que la coulée volcanique qui est au-dessous. Un charriage est donc synonyme de raccourcissement. C'est donc un marqueur de la convergence. Arrêt numéro 5. Les coordonnées nord 25 degrés 30 minutes 54,7 secondes. Est 56 degrés, 5 minutes et 4,2 secondes. Notre orientation, on regarde vers le nord. Nous retrouvons à l'ouest le dôme du Djebel Aga, qui est un dépôt de talus. À l'est, un autre morceau du Djebel Aga, encore dépôt de talus. Au milieu, entre les deux, un dépôt qui s'est formé pendant l'obduction, qu'on appelle la formation de Riyama. C'est un dépôt de flexure, c'est-à-dire que un grand nombre de matériaux qui étaient poussés par ce bulldozer constitué par la croûte océanique iranienne a été mélangé, bousculé, glissé, éboulé. Et donc là, on a un mélange, On y trouve des gros blocs de calcaire, on y trouve des schistes, on y trouve de l'argile. Dans cette même région, à l'est, au pied donc des formations de talus, on a des strates inclinées qui font relief de couleurs marron et gris. Ça, c'est une formation de Dera, c'est-à-dire une formation de Flysch avec des couches siliceuses, des chertes rouges. Encore plus à droite, c'est-à-dire encore plus à l'est, au-dessus de l'autoroute, un relief qui est en fait un relief de volcans sous-marins. Ce ne sont pas des volcans de dorsale, mais des volcans sous-marins profonds, puisqu'on y trouve des piles au lava. Donc ça signifie que ces reliefs se trouvaient au fond des océans à environ 2500-3000 mètres de profondeur. En face de nous au nord, avec des altitudes pouvant dépasser 2000 mètres, les reliefs de plateformes calcaires dont l'épaisseur au total atteint quasiment 3000 mètres. Donc dans ce panorama, sous nos yeux, nous avons une preuve de la convergence, puisque nous trouvons côte à côte, à au maximum 10 km de distance, des formations de plateformes, formations calcaires, des formations de talus, comme le Djebel Aga, des formations de Dera, c'est-à-dire des formations de Flysch et de Chertes Rouges, ainsi que des volcans à pilon lava, c'est-à-dire des volcans qui se trouvent être à l'intérieur de la plaque océanique en grande profondeur, à 2-3 000 mètres de profondeur. Tous ces éléments à l'origine étaient probablement distants de 2 à 300 km. Ils se retrouvent maintenant sous nos yeux à au maximum 10 km de distance l'un des autres. Et d'autre part, on observe une désinversion, puisque les formations de talus du Djebel Aga se retrouvent en avant des formations de plateformes. Elles ont donc été charriées par-dessus. Arrêt numéro 7. Les coordonnées nord 25 degrés, 31 minutes, 28,1 secondes. Est 56 degrés, 2 minutes, 21,7 secondes. Bien, ici donc, nous sommes à l'extrémité ouest du dôme du Djebel Aga. Ce dôme est donc un anticlinal, mais quand on dit dôme, ça veut dire que c'est anticlinal de tous les côtés. Il présente une particularité. Vous voyez que ce sont des dépôts relativement fins d'un calcaire gris clair qui, par satellite, donne plutôt gris bleuté. Donc sur les photos satellites, il envoie des radiations gris bleuté de patine. Et vous voyez que ces strates qui forment un dôme, arrivées ici, elles sont complètement pliées pour former un pli couché. C'est donc un pli couché. Pli couché, ça veut dire qu'il y a eu une poussée qui est venue de l'endroit où on était, hein, tout à l'heure, qui est venue de l'est, qui a poussé le dôme. Et puis ensuite, donc, la partie extrême du dôme à l'ouest s'est repliée par en dessous, tout en glissant. Et donc à son extrémité, vous avez un pli couché. Alors cette poussée va aussi avoir un effet sur les formations de Dera et Chamal qui se trouvaient à l'ouest, qui se trouvaient à l'extrémité. Vous voyez que toutes ces formations sont relevées et plissées. Donc on voit bien le phénomène, la poussée vers l'ouest a poussé comme un bulldozer les formations Chamal et Dera qui étaient devant pour les relever. C'est très net ici. Toutes les formations qui sont en avant, là ça c'est la première, les autres on les verra au dernier arrêt, c'est-à-dire en redescendant de 2 km, ça sera le dernier arrêt, on verra cet ensemble de strates inclinées et même quasiment verticales pour certaines d'entre elles. On comprend bien la poussée. Au fond, en arrière-plan, vous reconnaissez bien sûr Moussandam avec justement ces reliefs soulevés de la plateforme continentale. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ici, ce qui est important, c'est de voir ce pli couché qui est là-bas. En glissant, les couches se sont placées comme ceci, comme ma main là, et ça a glissé. En glissant vers l'ouest, ça a poussé les formations qui étaient devant en les relevant pour qu'elles prennent moins de place. Une formation, plus elle est relevée, moins elle prend de place. Mes bouquins, je ne les range pas à plat sur l'étagère, mais debout sur l'étagère, ils prennent moins de place. L'arrêt numéro 8, les coordonnées nord 25 degrés, 31 minutes, 7 secondes, 1. Est 56 degrés, 0 minutes et 37 secondes. Ici, nous repérons à l'est, c'est-à-dire à notre droite, qui dépasse très légèrement dans le creux le dôme gris clair du Djebel Aga. Vous imaginez donc que le pli couché, le front du pli couché, cette fois, est en face de vous, comme mon point. Et il vient, par charriage, pousser l'ensemble des formations qui sont devant lui. Ces formations qui sont devant, c'est l'ensemble de ces reliefs pointus, de couleur plus ou moins beige ou brune. Quand c'est brun foncé, c'est que vous êtes dans les formations schisteuse de Schaerte. Quand c'est beige clair, c'est plutôt des formations de Flysch. Alternées donc. Ces lits sont plissés ou redressés. Alors regardez les derniers devant la vallée du Wadi Matibahani sont complètement verticaux. Vous avez alterné les bancs clairs de Flysch et les bancs de Schaerte rouge qui sont totalement verticaux face à vous, justement. Ils viennent buter contre des reliefs de plateforme qui se trouvaient en avant. De l'autre côté du Wadi, vous voyez que c'est un calcaire qui sert pour les carrières, calcaire de plateforme qui se trouve décalé, là. C'est dans ce calcaire de plateforme qu'on avait vu de l'autre côté les carrières pour la cimenterie. Donc vous voyez, on est revenu au point de départ, la cimenterie est juste de l'autre côté. Elle est à 2 km à vol d'oiseau de l'autre côté de ce petit massif